Eh bien, je vais m'entretenir avec Luc Chartrand. Luc Chartrand, cet auteur et enfin, surtout journaliste, hein, bien connu. Ça, on vous a connu un peu partout. Vous avez quand même été aussi dans le monde, enfin, suivre des conflits. Bon, alors, on vous a entendu que ce soit à Radio-Canada, l'émission Enquête. Alors, bon, alors, cela dit, vous êtes un romancier aussi. Alors, vous avez même fait dans le roman policier. Alors, c'est quand même quelque chose. On parle d'enquête ici. Il y a un lien avec le métier de journaliste, bien sûr. Alors là, cette fois-ci, vous vous intéressez à la chasse. Alors, c'est oui. Un sujet, c'est le livre « La grande expérience de la chasse » et vous êtes vous-même chasseur. Alors, dites-moi, bon, c'est sûr que là, c'est un sujet qui est tout à fait délicat, qui n'est pas facile. Évidemment, j'avoue que je suis un petit peu intimidée même d'aborder ce sujet-là parce que c'est sûr que la chasse, bon, il y a plusieurs couches. Hein. Ça suppose les armes à feu, ça suppose la mise à mort d'un animal. Il y a plein de choses là, qui viennent nous heurter. Alors, en tant que vous-même chasseur, vous avez quand même voulu aborder la chose d'une façon... C'est pas un livre là qui va nous donner des trucs sur la chasse,
non.
Assurément.
Non, non.
Mais on est dans la réflexion ici. On est presque dans la philosophie même de la chasse. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à écrire un livre sur la chasse?
Bien, d'abord, je suis conscient d'avoir écrit un livre qui est un peu atypique sur la chasse parce que il y a beaucoup de livres techniques sur la chasse qui se publient chaque année et puis des livres qui réfléchissent sur la chasse, qui font part à la philosophie, aux émotions que vivent les chasseurs. Ça, c'est plus rare, c'est l'exception. Et puis, ce qui m'a incité à le faire, ben, c'est que moi, je suis chasseur. Depuis mon tout jeune âge, j'accompagnais mon père en forêt. J'ai toujours participé à des activités l'automne de chasse, d'aussi loin que je me souvienne. Et évidemment, au fil des années, on réfléchit sur ce qu'on est en train de faire. On rencontre des gens qui ne comprennent pas. On essaie de leur expliquer. Puis, c'est pas toujours facile d'expliquer la chasse. D'ailleurs, c'est un constat que je fais dans le livre.
Oui, c'est vrai, vous le dites vous-même. Hein?
C'est plus facile de vivre la chasse
exact.
Que de l'expliquer parce
exact.
Que, d'abord, on n'est pas dans le domaine de la raison, on est dans le domaine de l'émotion, dans le domaine de la motivation qui sont pas vraiment rationnelles. Et c'est vrai aussi pour ceux qui n'aiment pas la chasse. Mais enfin, on est dans le domaine de la... D'une recherche qui est pas motivée par une réflexion au point de départ, mais qui est plutôt qui est en nous, parfois qui est acquise parce qu'on a été élevé à chasser par nos parents.
Oui, parce que ça remonte souvent à notre enfance, vous-même, oui. Vous le dites, et puis ce sont souvent des traditions familiales.
Ce sont souvent des traditions familiales, quoique on rencontre
mais là,
aussi des chasseurs.
Ça se perd
un peu.
Oui.
Puis on rencontre des nouveaux chasseurs qui n'ont pas connu ça, mais qui sont appelés par ça parce qu'ils ont entendu parler, parce qu'ils le sentent en eux. J'ai des amis chasseurs qui n'ont pas eu des parents chasseurs, mais qui ont eu envie de chasser tout
développer
petit.
Développer cet intérêt quand
tout
même.
Tout petit, ils ont senti, ils jouaient avec leur toutou et s'amusaient à aller chasser dans la maison, même s'ils n'avaient pas des parents qui avaient chassé. Donc, c'est un peu complexe, il n'y a pas nécessairement... Mm-hmm. C'est pas nécessairement enseigné, mais c'est souvent l'héritage familial, oui.
C'est ça. Et là, vous êtes allé, vous avez décidé de partir à la rencontre de d'autres chasseurs pour partager, en fait, l'idée même de la chasse, de ce qui les anime eux-mêmes.
Oui,
parce qu'ils ont des parcours très différents, ces gens. Et
oui.
Puis, leurs motivations aussi peuvent être différentes.
Ils ont des parcours différents, des motivations différentes, mais ils ont en commun quand même un certain nombre de visions. Et moi, c'est mm-hmm. ce que j'ai constaté en le faisant. D'abord, le plaisir de tuer des animaux, ça n'existe pas vraiment, la chasse. Peut-être qu'il y a des
on n'est pas là.
On n'est pas là. C'est pas le plaisir de tuer, c'est le plaisir de traquer, de chercher, de comprendre, d'être dans la nature, non pas comme un spectateur qui contemple la nature au cours d'une excursion, mais d'être partie prenante, d'être dans la façon dont les animaux font entre eux, c'est-à-dire ils se chassent ou sont chassés.
Il y a des prédateurs,
il y a des victimes, et l'humain historiquement a été
nous
prédateur,
sommes
nous sommes
prédateur.
Des prédateurs.
Voilà.
Et donc c'est de renouer avec cette activité-là, et donc par cette activité-là, c'est de vivre une expérience dans la nature qui va plus loin que des expériences qui sont purement contemplatives. Donc, ouais. Dans la chasse, oui, il y a de la contemplation, mais il y a aussi une action. Il y a beaucoup d'action.
Ouais. Il y a de l'attente aussi. Mais en fait, c'est ça, parce que certains bon, parlent de la chasse comme une activité de plein air. Hein. Je ne sais pas, moi, les boutiques de chasse et plein air, hein, ça fait ouais. Bon, de chasse et de pêche. En fait, ça fait très plein air d'un côté. Il y a aussi les gens qui considèrent cette activité-là comme un sport. Mais à la fois, on se pose la question, vous-même, vous la posez, la question, bon, est-ce que c'est une compétition? Est-ce qu'il y a un pointage au bout de la chose, ben, c'est pas vraiment non plus un sport.
Mmh. Ben, moi, je le vois pas vraiment comme un sport, surtout qu'il y a des formes de chasse qui sont vraiment peu sportives, hein, qui se passent ben, essentiellement dans l'attente. Donc, il y a des types de chasse qui sont beaucoup plus actives, mais il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de pointage, il n'y a rien de ce qui caractérise en général les sports qu'on retrouve dans la chasse, sauf que c'est une certaine idée, activité physique.
Ça peut être une idée préconçue encore pour, là, de le définir.
Pour moi, je le vois plus comme un jeu. Je pense que l'idée de sport, ça nous vient des Anglais, qui essayaient de trouver une justification au fait de chasser à une certaine époque.
Ouais.
Je pense que la chasse, oui, c'est plus proche du jeu parce que c'est quand on revit au fond souvent des comportements d'enfants. Quand on chasse, on se cache, puis on prépare des coups, puis on fait des stratégies. Puis oui. Il y a beaucoup de jeu dans la chasse, ça c'est sûr.
Mais alors c'est ça. Puis pour d'autres, comme on l'a évoqué, il y a une dimension spirituelle pratiquement. Enfin, je pense pour les Autochtones entre autres.
Oui, mais évidemment, les Autochtones n'ont pas non plus le monopole de la spiritualité, mais ils ont des traditions oui. spirituelles. Et puis les chasseurs, ben plusieurs je dirais, beaucoup de chasseurs que j'ai rencontrés le voient comme ça, c'est-à-dire que la chasse les rapproche de considérations spirituelles. Notre petite place dans l'univers, on la ressent beaucoup à la chasse parce qu'on est en forêt, souvent seul, petit, dans un environnement qui nous dépasse, puis on a des moyens limités, puis on se sent vraiment... On sent qu'on a un rôle à jouer, mais en même temps, on se sent démuni. Donc, ça fait toutes sortes de... C'est propice à la réflexion
ouais.
de notre place dans l'univers. Certains le traduisent dans des rituels, d'autres pas. C'est pas tellement... Mais il y a quand même une dimension, oui, que beaucoup de chasseurs partagent. Oui.
Il y a également... Bon, c'est sûr qu'on dit que les chasseurs peuvent être finalement les meilleurs défenseurs de l'environnement aussi.
Bien, c'est dans leur intérêt. Il y a des chasseurs qui vont dire, je pense, dans le monde de la sauvagine, c'est-à-dire les canards, les oies et tout ça, les chasseurs vont souvent dire, ben nous, on est les seuls qui puisons dans nos portefeuilles pour dépenser des sous pour des organismes comme Canard Illimité qui vont aménager des milieux pour favoriser la nidification du canard, etc.
C'est ça.
Les chasseurs contribuent comme ça à améliorer souvent des environnements pour favoriser le gibier, c'est des écologistes intéressés. Ils
oui.
font ça parce qu'ils veulent la pérennité de leur activité, ils veulent que ça se transmette aussi aux générations futures. Alors, mais ils ont un souci et souvent ils sont actifs, puis ils vont même aménager des coins de forêt pour favoriser des gibiers.
Mais ça, c'est intéressant parce que vous nous donnez toujours un petit peu la contrepartie. C'est intéressant, votre vision, au fond, parce que vous le faites à tous les niveaux. Vous apportez un éclairage, mais aussi, vous êtes capable de mettre ça dans une autre perspective. Alors, on parle d'environnement, mais c'est ça, des défenseurs de l'environnement. Les chasseurs eux-mêmes peuvent se dire de grands défenseurs de l'environnement, mais comme vous dites,
ce sont
des gens intéressés aussi par
oui,
la chose.
Oui, c'est ça, ils sont intéressés. Puis, on peut nuancer, il y a des chasseurs qui ne sont pas du tout des protecteurs de l'environnement. Il y en a qui... Même quoi. Moi, je chasse, je sais, je vois souvent des déchets en forêt qui ont été laissés par d'autres chasseurs.
Ce ne sont pas tous des modèles, exactement.
Mais il faut se rappeler que tout le mouvement de la conservation en Amérique du Nord, puis souvent ailleurs aussi, la conservation des habitats, la création des parcs, des réserves, etc., ça vient des chasseurs. Le plus grand conservationniste américain, c'était le président Theodore Roosevelt, qui lui-même était un chasseur devant l'éternel. Ouais. Mais c'est lui qui a créé les tout premiers parcs aux États-Unis, puis il en a créé beaucoup des réserves aux États-Unis. Et,
c'est ça, pour
et au
préserver...
Québec, c'est les chasseurs qui sont à l'origine de la création des réserves fauniques, etc. Donc, les chasseurs, oui, sont
importants dans cette...
Ils jouent un rôle là-dedans, oui. Effectivement, majeur.
On va s'arrêter juste le temps d'une pause musicale. Et puis, on va parler, bien sûr, aussi à cette jeunesse urbaine qui s'intéresse maintenant au bio, au manger local. Alors ça fait partie aussi de l'intérêt pour la chasse qu'on a développé. Évidemment, les jeunes aussi, pas évident aussi d'avoir une relève à ce niveau-là. Alors, on en parle après la pause.
Bien sûr.
ton télescope, sur ton fusil, pour tirer ces gros bocs qui t'a surpris. On en met du cognac 4 à 5, 6 packs pour avoir du fun au show assis d'un cache. La gang de gosses agage la grosse pièce pour voir lequel qui aura le plus gros panache. On prend les filles pis les gars faire un tour dans le bois, courir après panache dans le temps de la chasse. Ça te prend un bon télescope sur ton fusil pour tirer ces gros bocs qui t'a surpris. On adore nos chums qui ont payé 100 piastres pour avoir chez eux le plus gros dépannage. Ils n'ont jamais tiré une crise de balle aux frettes pour chasser l'automne, sont aux valuettes. Hey boy! On part les filles pis les gars faire un tour dans le bois, courir après un panache dans le temps de la chasse. Sur ton fusil pour tirer ces gros bocs qui t'a surpris. Y'en a des mardeux qui ont été pigés pour avoir le permis de chasse pour tuer la vache. Mais ils sont pas chanceux de savoir tromper, tirer ses panades de bonne garde de chasse. Chasseuses qui se font petite brosse dans le temps de la chasse. Ça arrive juste l'automne, le dixième mois de l'année, juste avant que Noël soit arrivé. Hey, hey! On prend les filles pis les gars faire un tour dans le bois, courir après panache dans le temps de la chasse. Ça te prend un bon télescope sur ton fusil pour tirer ces gros bocs qui t'a surpris. On prend les filles pis les gars faire un tour dans le bois, courir après panache dans le temps de la chasse. Ça te prend un bon télescope sur ton fusil pour tirer ce boc qui t'a surpris.
Eh bien voilà, c'était Irvin Blair qui chantait Le temps de la chasse. Ben oui, parce qu'on y arrive au temps de la chasse bientôt. Ça, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on reçoit Luc Chartrand qui a écrit ce livre, La grande expérience de la chasse. Et en passant, Irvin Blair qui sera au Festival Western de Saint-Tite le 9 septembre en ouverture. Le festival qui va se dérouler du 9 au 18 septembre. Eh bien, Luc Chartrand, on parlait justement de cette faune, enfin de cette faune urbaine, là, on peut dire, de ces gens, qui, de ces jeunes qui s'intéressent au bio, au local. Et puis, ça fait partie maintenant de l'intérêt que ces gens-là peuvent porter à la chasse.
Oui, on observe ça depuis quelques années. Il y a une nouvelle clientèle qui arrive dans le domaine de la chasse. Il y a une augmentation du nombre de chasseurs qui n'est pas spectaculaire, mais qui est quand même mesurable, et qui voit des jeunes urbains qui, parce qu'ils s'intéressent justement à ces nouvelles valeurs alimentaires, bio, manger local, aussi parce qu'ils veulent se rapprocher de la nature, viennent grossir un peu les rangs des chasseurs, puis jettent un nouveau regard sur la chasse. Mm-hmm, ça, c'est intéressant.
C'est ça. Comme les chefs, finalement, le font, parce que ça, c'est devenu aussi très populaire, les Martin Picard, qui ont des émissions de télé.
C'est ça. Les Martin Picard et compagnie ont popularisé aussi l'idée que un terroir forestier qu'on doit mettre en valeur. Et on voit aussi des groupes sur Facebook qui émergent. Je pense à un qui s'appelle Cuisiner la forêt, où il y a beaucoup, beaucoup de recettes de chasse et pêche. Et puis, aujourd'hui, ils sont à 35 ou 40 000 membres là-dessus
quand même,
à échanger.
Ouais,
puis là-dedans, il y a beaucoup de ces jeunes-là. Il y a pas de... Donc, autrement dit, on assiste vraiment à une évolution sociologique de la chasse. Je pense qu'on est au début de ça.
D'un mouvement, oui. Parce que, bon, les chefs, d'ailleurs, vous en accueillez un dans votre livre. Bon,
Jean-Luc Boulay,
qui finalement parle, qui est un chasseur.
C'est un chasseur invétéré,
puis qui a découvert, je pense, la chasse en venant ici.
Même. Oui, il a découvert la chasse en immigrant au Québec, et puis lui est devenu passionné de la toundra du Grand Nord. Il a chassé, pêché, il a chassé beaucoup le caribou, il a chassé aussi d'autres gibiers, mais c'est quelqu'un qui a vraiment contribuer aussi à sa façon à développer les recettes de chasse, à faire connaître l'ours, par exemple, qui était méconnu.
Alors, de ce point de vue-là, on a comme une ouverture, tout d'un coup, quand on parle de chasse, hein, avec les chefs, entre autres. Ça, c'est comme... Bon, c'est, vous savez, c'est ce que vous évoquez dans votre livre. En fait, tous ces paradoxes qu'on retrouve dans la société, puis, enfin, notre vision, la vision qui s'oppose parfois au niveau de la chasse entre les chasseurs et les anti-chasseurs, enfin, bref.
Juste pour finir sur la nourriture, on vit actuellement, je pense, une explosion des identités alimentaires. Avant, dans un même pays, les gens mangeaient à peu près de la même façon. Aujourd'hui, ça éclate de tous côtés. Alors, effectivement, c'est normal qu'il y ait une multiplicité de façons de manger, de voir la vie, puis la façon dont on mange. Ça correspond à ce qui se passe dans toutes les sphères de la société. Donc, il y a des gens qui choisissent le véganisme, il y en a d'autres qui revalorisent la chasse, etc., etc. Il y a toutes sortes de tendances.
Oui, c'est ça. Pendant la musique, on parlait justement de la France où il y a beaucoup plus d'opposants à la chasse. Ce sont des gens plus militants, d'accord. Ici, on retrouve moins ça. Oui. Il y a quand même une certaine acceptation sociale par rapport à la chasse parce qu'il y a beaucoup de chasseurs quand même.
Il y a beaucoup de chasseurs. Au Québec, on dit qu'il y en a à peu près 300 000 et peut-être un peu plus, mais il y a aussi... tous les gens que ces chasseurs-là connaissent et qui partagent le gibier, qui en mangent de temps en temps, qui sont donc ouverts et sympathiques à ça.
Tout à fait.
Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un contact indirect avec la chasse de cette façon-là.
D'ailleurs, en 2019, je pense qu'on a augmenté le nombre de permis. Il y avait 30% de plus de permis qui ont été alloués pour les chasseurs. Hein. Il y a eu une augmentation?
Il y a une augmentation... très importante de cet ordre-là qui est survenu pendant la pandémie. Peut-être des gens qui sont retournés à la chasse, on ne sait pas trop. Mais il y avait aussi quand même une tendance à la hausse là, depuis une vingtaine d'années. On a remarqué qu'après un long déclin là, à la fin du 20e siècle, là, soudainement, on s'est aperçu que ça commence à remonter. Mm-hmm. Et donc, il y a 80 000 permis de plus qui ont été vendus au cours des 20 dernières années sur une base annuelle.
Bon, alors là, on va parler de votre livre en tant que tel, qui est divisé en quatre parties. Alors vraiment, c'est ça, c'est une sorte de portrait documentaire, en quelque sorte, si on veut. Vous êtes journaliste, après tout. Enfin, un portrait sur différents thèmes à travers les gens que vous avez rencontrés qui ont leur vision, effectivement, de la chasse. Alors, parlez-nous plus spécifiquement, justement, de ces parties-là.
Bien, il y a des... Ça s'est beaucoup fondé sur mes rencontres avec parfois mes camarades de chasse, des gens avec qui je chasse depuis des années. Et d'autres que j'ai découverts en faisant cette recherche-là. Je pense à Michel Therrien qui signe la préface,
qui est un
formateur, guide dans le domaine de la chasse, qui est très connu dans le milieu de la chasse et très respecté.
Ouais. Qui a fait d'ailleurs un documentaire, je pense, avec quelqu'un qui est à mobilité réduite. Ça, c'est intéressant.
Il vient tout juste de le diffuser sur TV5 Uni, mais ça va repasser ailleurs, c'est sûr. Il s'appelle William. C'est un jeune handicapé paraplégique qui était chasseur avant d'être accidenté et que Michel Therrien amène à la chasse et lui fait réaliser, malgré ses difficultés...
Que c'est encore possible.
C'est encore possible, évidemment. Il y a beaucoup de travail qui est fait pour l'amener en forêt, puis conceptualiser comment il va s'y prendre. C'est un documentaire très touchant.
Très touchant.
Ça s'intitule William.
Mais de toute façon, la chasse, c'est tough, comme on dit. T'sais, c'est pas juste une partie de bonheur, là, dans le sens que, tu sais, il y a une partie où il faut amener, dépecer la carcasse. Il y a quand même cet aspect-là dont vous parlez dans votre livre, de toute façon.
Aussi. Oui, c'est la chasse comporte beaucoup de difficultés physiques, morales, parce que, d'une part, la frustration d'échouer est très fréquente.
Oui.
Il fait froid, généralement, ça se passe en automne. Des fois, la chasse au chevreuil, il peut faire des 10 ou 15 sous zéro quand on chasse.
Il y a des bébites.
Il y a des bébites, c'est plus rare qu'à la pêche, là, mais bon. Donc, il y a des difficultés physiques. Donc, la chasse, c'est pas toujours facile. Quand on tue un orignal, c'est une épreuve physique aussi de sortir ça de la forêt. Donc, c'est pas... c'est pas une partie de repos, c'est pas c'est une activité qui peut être épuisante parfois, mais qui se valorise par son intensité. Et les efforts qui sont mis pour chasser, c'est ce qui la rend, la chasse, au fond, si intéressante.
C'est pas
quelque chose qui nous arrive tout cuit dans le bec.
Non, puis vous vous nourrissez d'espoir. Enfin, c'est le moteur
on
même.
On se nourrit d'espoir, c'est le moteur. Le philosophe Ortega y Gasset, que je cite dans mon livre assez souvent, qui était très intéressant. Lui, il dit, par exemple, si la chasse était facile et s'il était ce ne serait pas de la chasse. Pour que la chasse existe, il faut qu'il y ait la possibilité de rentrer bredouille, puis que ça arrive assez souvent,
oui,
finalement.
Parce que vous le dites aussi, même une chasse qui... même quand on ne rentre pas, entre guillemets, avec notre trophée de chasse, là, parce que ça aussi, ça existe, cette dimension-là, pour certaines personnes, de trophée, là, mais on n'en est pas là, ce n'est pas de ça dont on veut parler, nous. Mais quand même, il reste que c'est ça quand on... je ne veux pas m'égarer, là, mais je voulais dire... Qu'est-ce que je voulais dire? Là? Bon, je me suis égaré. Bon, c'est pas grave. Ça va me revenir.
Mais, ce que vous vouliez dire, puis je pense que c'est tout à fait pertinent, c'est quand même quand on rapporte pas...
Ah oui, quand même, c'est ça. Quand la chasse n'est pas...
On peut avoir vécu des expériences.
L'expérience en soi est extraordinaire, c'est de ça dont vous parlez.
La communication avec la nature, le fait d'être dedans, d'approcher des animaux, de les voir.
Oui, c'est ça. Ce n'est pas essentiel, le fait d'avoir tué notre animal pour
que
ce soit réussi.
Non, c'est sûr que c'est le but, puis c'est important, puis quand on n'en a pas, on est un peu déçu, des fois même très déçu. Mais en même temps, cette expérience de chasseur va avoir apporté à celui qui la vit des aventures et des moments d'exaltation. Et c'est pour ça que la chasse, on recommence toujours, même si le succès n'est pas toujours au rendez-vous.
Oui, c'est ça. Donc, alors, toutes ces rencontres que vous avez faites, donc ce partage, c'est vraiment, à la fois, c'est très riche et vous avez tenté à travers ça d'avoir un regard le plus juste possible, en tout cas, sur...
Je suis resté journaliste, donc c'est sûr que je n'ai pas essayé de présenter la chasse dans son état essentiellement merveilleux, parce qu'il y a des choses qui marchent moins bien, des chasseurs, il y a un chapitre qui s'intitule « Chasse honteuse », des chasseurs ont vécu souvent, tous, je pense, des moments où ils ont fait des erreurs, ils ont perdu des animaux, ils sont allés trop loin, ils ont des fois... ils ont tiré sans être assurés d'avoir un coup mortel. Ils ont perdu un animal blessé.
Ça aussi,
toutes ces choses-là.
C'est une question de respect de l'animal aussi à travers tout ça.
Puis les chasseurs qui ont vécu ça, en général, en sont restés très mal. C'est-à-dire ils ont, je dirais, un désir de se racheter, de faire mieux la prochaine
fois.
C'est
un peu ça comme quand vous dites honorer l'animal. C'est dans le sens qu'il faut quand même essayer de pas le faire souffrir, à tout le moins. Alors, ça veut dire une responsabilité aussi par rapport en tant que
même, chasseur. Même s'il y en a qui l'acceptent ou qui ne l'accepteraient pas comme énoncé, la chasse conduit la plupart de ceux qui le font à une forme d'éthique animale. C'est-à-dire qu'on... Il y a une éthique dans la chasse, c'est ne pas faire souffrir, honorer le gibier dans le sens où on va pas le gaspiller, on ne l'a pas tué pour rien, on va le manger, on va le partager. Oui. Il y a toutes sortes d'éléments là-dedans.
Exactement.
Mais il y a une éthique animale qui est rattachée à la chasse, c'est évident.
En tout cas, ça reste une aventure très particulière auquel vous nous conviez dans ce livre, La grande expérience de la chasse. Enfin, écoutez, on aurait pu en parler encore longuement parce que je sais, il y a plein de questions encore qui me viennent à l'esprit. Mais en tout cas, je pense que le mieux, c'est d'aller lire votre livre.
C'est bien
dit. Et puis
dit.
En même temps, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, je pense que ça va nous réconcilier avec cette activité-là. Et puis, ça va aussi aider les gens qui côtoient des chasseurs, la famille, entre autres. Alors, voilà. Alors, merci, Luc Chartrand.
Merci, Chantal.
Ça a été un grand, grand plaisir.
Pour moi aussi.
Au revoir, là.